Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, moi c'est Charles et bienvenue dans Cross Check pour votre rendez-vous spécial NHL et spécial hockey. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous retrouvez Jordan et Samuel. Ça va les gars?
Bonjour Charles, attends. Bonjour à tous.
Et on a une invitée. C'est la première fois qu'on a une invitée dans nos émissions, quelle qu'elle soit. Et du coup, on est super contents. Elle fait partie de... oui. La poule est toujours pas partie depuis dimanche, donc désolé. Elle fait partie de This Hockey Pod, un podcast, bien entendu, sur le hockey. Elle est, comme vous le voyez, fan de Colorado. Ça tombe bien parce que c'est un des sujets ce soir. Bonjour Molly.
Bonjour. Bonjour. Ça va?
Comment vas-tu?
C'est bon. Merci beaucoup pour
l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à tous qui seront sur le chat live ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions, car au menu de l'émission, on va parler de Colorado et du retour ce soir de McKinnon. On va parler des Hurricanes et de Washington pour savoir si dans la division métropolitaine, ils n'ont pas déjà fait main mise et main basse sur un potentiel titre en fin de saison. Et on terminera par, il est là ce soir, donc on ne pouvait pas ne pas parler des Leafs avec Jordan, pour savoir si Toronto peut continuer sur sa belle lancée du mois de novembre pour jusqu'à la fin de la saison et faire, comme d'habitude, décevoir en play-off. et petite nouveauté, vous en avez l'habitude sur si vous regardez l'émission sur la NFL, il y aura une question ce soir, il y aura du quiz pour cette émission. Et j'espère que ils trouveront pas, parce que c'est quand même mon but à moi, c'est moi qui pose la question, donc j'espère qu'ils ne trouveront pas. Bon, assez parlé, moi en tout cas, et on va commencer par parler tout de suite de Colorado. Et du retour de la star, du joueur que tout le monde attend du côté de Denver, de McKinnon. L'Avalanche s'est plutôt bien sortie, Molly, sans McKinnon jusqu'à présent. Ils avaient un bilan de 7 victoires pour une seule défaite. Alors, est-ce que Colorado va quand même continuer à bien s'en sortir? Est-ce que Colorado va devenir encore meilleur avec le retour de McKinnon?
Alors, c'est difficile parce que je suis un peu négative avec mon équipe. Je trouve que quelqu'un retourne sur glace. C'est une autre personne qui sont blessée. Par exemple, McKinnon retourne et finalement, c'est bon. Et le défenseur Murray blessé contre les Predators. C'est difficile, mais avec McKinnon, il ne joue pas beaucoup en ce moment. Donc, peut-être c'est mieux pour Colorado, peut-être pas. Oui, that's English. Nous avons les joueuses.
C'est pas grave.
Comme des autres étoiles en ce moment, comme Kadri. Kadri, c'est formidable avec Colorado. Désolé, Leafs. Il est mieux ici. Byram, McCarr. J'ai une liste. Rantanen.
Oui.
Gerard, Johnson. Toute l'équipe en ce moment.
Toute l'équipe,
sont
en fait.
Top.
Oui, voilà.
Oui. Donc, c'est mieux.
Ouais, mais... effectivement, tu le dis bien, Colorado sans McKinnon, ils ont quand même remporté 9 de leurs 10 derniers matchs, ce qui est enfin plutôt une bonne moyenne. Samuel, est-ce qu'il va y avoir une petite période d'ajustement avec son retour, ou de par son aura, tout va rouler comme s'il n'était jamais parti?
Probablement, c'est-à-dire que on a regardé sur les 10 derniers matchs de Colorado, d'autres joueurs se sont affirmés et ils vont devoir s'adapter à un rôle moindre, offensivement parlant et défensivement parlant, parce que McKinnon prend beaucoup de temps de palais, parce que c'est la superstar de l'équipe, évidemment. Et donc, ils vont devoir s'adapter. Après, je ne pense pas que ça va vraiment avoir un réel impact négatif sur cette équipe de l'Avalanche. Mais c'est vrai que pour des joueurs qui ont vraiment brillé sur les 10 derniers matchs, Nazem Kadri notamment, qui est le quatrième meilleur pointeur de la Ligue avec 27 unités, son impact numérique devrait se réduire logiquement puisqu'il aura moins de tirs et qu'il aura moins le palais, mais l'équipe ne devrait pas spécialement en pâtir au niveau des résultats.
C'est la meilleure attaque de la NHL aujourd'hui, avec 4 buts marqués en moyenne par match. Jordan, alors, ils sont déjà à ce niveau-là sans lui. L'attaque, ils vont monter à combien? 5, 6?
Alors non, ils devraient. En tout cas, ils vont pas. Ils vont peut-être pas garder un tel rythme parce que 4 buts par match sur toute une saison, c'est pas possible. Qu'il y ait Nathan McKinnon ou Ovechkin ou McDavid ou peu importe la superstar et peu importe l'équipe, sur le long terme, ça se lisse. Maintenant, tu le dis, la force de Colorado, c'est leur attaque. En revanche, il y a un poste qui n'a pas du tout été mentionné et qui, pour moi, est aujourd'hui le principal point faible, c'est les gardiens de but. Ils ont laissé partir Grubauer cet été, et Darcy Kuemper, qui était pourtant un bon gardien aux Coyotes, là il est pas très bon. Il est à 90% d'arrêt, quelque chose comme ça, 40 buts déjà encaissés, et Johnson, on peut pas dire que ce soit aussi un second de grande qualité. Donc face à des armadas offensives, ça peut vite être problématique, parce que tu sais que tu peux très rapidement encaisser des buts, hein. Et donc, est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je sais de McKinnon, et c'est l'une de ses grandes forces, et je vais le comparer à un autre grand joueur qui est Sidney Crosby, c'est que quand ils arrivent sur un trio, ils ne vampirisent pas leur... statistiquement parlant, ils ne vampirisent pas leur partenaire. Ce qui veut dire que là, actuellement, Rantanen est à 10 buts, et Landeskog est à 6. Et je pense qu'avec l'arrivée de McKinnon, en tout cas ce trio-là, et si c'est le trio sur lequel il est amené à jouer, devrait en tout cas être plus efficace. Alors, est-ce que ça va se faire au détriment effectivement d'un joueur comme Kadri? C'est possible. Mais en tant que tel, en tout cas, ça devrait renforcer le premier trio de Colorado. Ouais.
Molly, est-ce que tu partages cette analyse sur la partie comparer McKinnon à Crosby et le fait qu'il ne vampirise pas ses coéquipiers? Mécaniquement, on peut s'attendre à ce que le nombre de points, peut-être plutôt le nombre de buts de ces deux partenaires de trio, peut-être baisse légèrement, mais peut-être pas à un niveau où McKinnon va se mettre à faire des matchs à 2-3 points tout le temps.
C'est difficile cette saison parce que il n'y a pas la même personne que la saison dernière, et pour jouer avec quelque chose comme Crosby, c'est impossible à comment. c'est difficile, et il ne gagne beaucoup de points cette saison, et il y a blessure. Donc, je crois que c'est comme la saison how do I say it in French? When he broke his leg.
Quand il s'est cassé la jambe.
Yeah. he took a while to get back to his level. So
il a mis un petit peu de temps à revenir de à son niveau.
So maybe this is the same where he's had an injury and he's not going to perform as well, but it also depends on his support there and his lines, but he's always had a good rapport with his team. So
alors pour les ceux qui ne seraient pas anglophones parmi notre audience, ce que Molly a voulu dire c'est que peut-être que McKinnon ne reviendra peut-être pas de la même manière qu'avant sa blessure, même s'il a du support de sa défense notamment. Effectivement, il était blessé. Comment est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir à son niveau d'avant? Samuel, une idée?
Ben, forcément, ça va prendre un peu de temps parce que même s'il s'est entraîné, même s'il a fait il a travaillé dans le gym, son impact sur la glace et en match va être diminué par sa réémission. Donc, dans tous les cas, se remettre d'une blessure, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est très compliqué justement. Et il me semble justement que McKinnon, il n'avait pas joué les tout premiers matchs de la saison justement parce qu'il avait été blessé et il était revenu et les premiers matchs il était un peu décevant, il n'avait pas vraiment marqué et j'ai pas pensé à regarder, mais il reste aujourd'hui avec moins de points que par match en tout cas que ce dont
Il a joué 8 matchs depuis le début de la saison. Il en est à 1 but et 8 passes.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc, pas le rendement qu'on a l'habitude d'avoir d'un McKinnon.
Mais par contre, il y a quelque chose qui va vraiment changer. C'est le power play de Colorado. Enfin, la première unité de power play qui va être terrifiante, je pense, avec Landeskog et Rantanen sur les ailes, Makar en pointe et Kadri devant la cage. À mon avis, ça va être un gros point fort encore plus pour les Leafs qui devraient marquer encore bien 3-4 buts par match.
Ce soir, ils jouent justement contre les Leafs. Donc, je suis un petit peu obligé, Jordan et Molly, puisque du coup, vous êtes adversaires ce soir. Une petite analyse rapide. Est-ce que, Jordan, est-ce que les Leafs vont pouvoir stopper Colorado?
Pardon. Alors, oui, parce que, je suis assez surpris de le dire, mais Toronto est la meilleure défense de la conférence Est, et je suis pas sûr pour la Ligue.
Non, pas la Ligue. La Ligue, ils sont deuxièmes.
Ouais, c'est ça.
Ils sont deuxièmes, il n'y a que les Flames qui sont devant.
Ouais. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, c'est la meilleure défense de la conférence Est. Ils ont de très, très bonnes unités spéciales, notamment en penalty kill. Toronto encaisse peu de buts sur les phases d'infériorité. Ils arrivent de mieux en mieux. Alors, ils ont les phases de supériorité, je dirais, sont correctes sans plus. Vraiment moyennes. En revanche, l'équipe a fait de gros progrès en 5v5, enfin en 5 contre 5, notamment Matthews, qui avait quelques difficultés à être décisif en situation d'égalité numérique, et qui, ces derniers matchs, a énormément progressé dessus. Et enfin, l'autre sujet, c'est que avec le niveau affiché aujourd'hui par Jack Campbell, en tout cas, s'il continue toute la saison comme ça, il sera prétendant au titre de meilleur gardien. Ouais, Vezina, effectivement. De plus, l'équipe a eu la chance, enfin, les Maple Leafs ont eu la chance de pouvoir un peu se reposer après leur road trip californien. Là, ils vont jouer à domicile. J'espère qu'ils vont gagner. Mais comme je disais hier, c'est un vrai match de play-off avant l'heure. Et en général, les matchs de playoff, on les perd. Donc,
En 7, Jérôme. Ouais. En 7. Donc là, tu as de la chance, c'est un match.
Ouais, à voir si ça laisse quoi, 3 chances sur 7, et ça, 40 et quelques pourcents, un peu moins.
Molly, ton avis sur ce match ce soir ? Est-ce que, par exemple, McKinnon peut scorer ce soir face à la deuxième meilleure défense ?
Oh, j'ai discuté avec Chanel sur le sujet parce que normalement nous regardons les matchs ensemble. C'est toujours difficile avec notre équipe parce que je pense à Abs, c'est parfait, mais sur papier, Leafs sont mieux. Oui, Campbell, c'est merveilleux. Oui, you covered everything.
Thanks.
Bon, alors visiblement, elle est d'accord avec Jordan. Bon, et ben donc les Leafs ont gagné ce soir. Sauf qu'il y a la malédiction quand on parle d'une équipe.
On a parlé des deux, donc on va faire match nul.
On a parlé des deux, donc match nul.
Mais non, mais en fait, théoriquement, sur ce genre de match, les gardiens font la différence.
Ouais.
Et aujourd'hui, oui.
Avantage Toronto,
Maple Leaf. Alors, ça ne veut pas dire que sur un match, Kuemper peut pas. Ou, alors, je ne sais pas si c'est Kuemper ou Johnson qui est annoncé. Je crois que ce n'était pas défini
c'est pas
encore.
Franck Coué.
Ouais. Ouais, le blessé. Mais le dernier match, c'est Johansson qui a joué, si je ne me trompe pas, donc ce sera probablement Kuemper. Il a joué contre les Preds.
Alors, tac. Source Roto-Wire, attention. Oui. C'est Kuemper qui joue ce soir et c'est confirmé.
Kuemper annoncé. Ah, ok. Bon, ben voilà.
Oh, dear.
Et voilà. Et donc, ça, Jack, quand même. Et donc, du coup, ça veut pas dire que sur un match, Kuemper pourra pas faire un très bon match et Jack Campbell se rater. On l'a déjà vu se rater face à Ottawa, face à. Pourtant des équipes moins fortes que Colorado, mais en tout cas sur le papier effectivement les Leafs gagnent l'avantage du gardien et avec deux escouades offensives très fournies de chaque côté ont un léger avantage. Oui.
Bon, et ben on verra demain matin.
Samuel,
tu peux aussi donner ton avis, ouais. Mais les deux sont pour Toronto.
Non, mais ça sera probablement une victoire de Toronto. Jack Campbell a l'air vraiment solide cette saison. Il a le meilleur pourcentage d'arrêt de la Ligue. C'est celui qui encaisse le moins de buts par match de la Ligue. Il marche un peu sur l'eau en ce moment. Après, attention quand même, parce que Colorado reste une grosse armada offensive avec des joueurs qui sont en confiance. Donc, je pense que ça va être un match serré dans tous les cas et qu'il faudra surveiller le résultat demain matin puisque ça va définir un peu les rapports de force.
Absolument, absolument. Je vous l'avais promis, je vais le faire maintenant, ça vous laissera du temps pour trouver. Okay. C'est le quiz. Et ça va être c'est la première fois qu'on le fait pour le hockey. Alors, bon, je pense que j'ai été assez soft, pour le coup, par rapport à ce que je fais en NFL. La question est la suivante. Quel joueur a été le premier en NHL à inscrire un but à 5 contre 5, en avantage numérique, en désavantage numérique, en penalty shot et en filet désert, donc 5 buts déjà, dans le même match. La réponse tout à l'heure.
Ouais, ok, pardon. Ouais.
La réponse tout à l'heure.
Oh mon Dieu.
Ouais. Oui.
Et il a été soft.
Non. Soft.
J'aurais pu trouver des trucs encore pires que ça. Dans le chat, n'hésitez pas. Mettez un petit nom si vous pensez savoir qui est ce joueur à avoir marqué. Et bah, du coup, 5 buts dans le même match et de 5 manières différentes. Voilà, dans l'histoire de la NHL. Le tout premier à l'avoir fait. Bon. On va parler d'autres joueurs qui sont en train de faire des saisons de dingue et qui a d'ailleurs été élu étoile de la semaine, bien entendu. Comme on l'avait dit, je pense qu'on devrait le retrouver peut-être une semaine sur deux à peu près. C'est Ovechkin. Et les Washington Capitals et les Carolina Hurricanes qui semblent avoir mis un peu main basse sur, pardon, sur la division métropolitaine pour situer. Donc Washington est premier, Carolina est deuxième. Ils ont respectivement 4 et 2 points d'avance sur mes Rangers qui sont troisième. Ils ont 6 et 8 points d'avance sur les Penguins, qui sont 4e, et 7 et 9 points d'avance sur Columbus, qui est 5e. Les Islanders et les Flyers sont loin derrière et semblent pas forcément prêts à revenir pour le moment. Alors même si les Islanders vont pouvoir rejouer à partir de demain, après leur petit break... Leur petit break made in Covid, ils vont pouvoir reprendre dès demain soir à l'UBS Arena contre les Predators, Panthers, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils peuvent revenir demain. Jordan, est-ce que Carolina et Washington vont se disputer à eux seuls le titre de la division métropolitaine? Question simple, pour une fois.
Je fais une réponse simple ou je fais une réponse compliquée?
Comme tu veux.
Non, comme je vais faire une réponse simple. Non. Que je vais étayer. Oui, parce que. Ouais. Alors, en fait, quand j'ai trouvé le sujet, je l'ai écrit en voulant répondre oui. Et quand j'y ai réfléchi cet après-midi, en fait, je me suis rendu compte que non. Parce que pour moi, il y a. Et vous allez dire que je me répète, mais il y a une stat que j'aime beaucoup. En saison régulière, c'est le expected goal, expected save above goal, quelque chose comme ça.
Ouais, en ça. Fait, expected goals above average, non?
Non,
en fait, c'est en la... gros, c'est combien de buts le gardien est attendu d'arrêter par rapport au nombre de saves qu'il fait.
Oui.
Voilà, en fait, c'est...
Goal again, c'est above average. Above
ouais,
average,
je sais plus comment ça parle. Mais voilà.
XGA.
En anglais, en plus.
Ouais, XGF.
XGA. Ouais, XGA. Ouais.
Et j'adore, effectivement, les stats avancées. Voilà, c'est goal save above expected, exactement.
Okay.
Et notamment, alors, le meilleur là-dedans, en tout cas, pour l'instant, le numéro 1 de la Ligue, c'est, comme on l'a dit, Jack Campbell. Mais si on regarde bien en numéro 2 et en numéro 3, on retrouve Igor Shesterkin
bien sûr.
Et Tristan Jarry. Et en général, cette stat, elle est assez intéressante parce que, en saison régulière, évidemment, ce qui compte, c'est les points. Et en fait, ça te montre à peu près la capacité qu'a ton équipe à gagner des matchs qu'elle devrait perdre. Ou en tout cas du moins à emmener des matchs en prolongation alors qu'elle ne devrait pas.
Ouais.
Et ça aujourd'hui ça va être la grande force d'équipes comme New York et comme Pittsburgh. Je pense que ces équipes en tout cas vont petit à petit poser des problèmes, marquer potentiellement beaucoup de points. L'an dernier, Pittsburgh avait fait un démarrage très lent avant de finir en boulet de canon et de prendre la première place de la division. Alors, ça ne les avait pas aidés trop pour les playoffs. Mais en tout cas, ils avaient finalement fini premier. Et du coup, je vois mal... déjà, tout d'abord, je vois mal Washington, qui est pour l'instant très Ovechkin dépendant. Je vois mal Ovechkin continuer sur ce rythme où il marque actuellement, je crois qu'il est à 2 ou 3 buts par semaine, quelque chose comme ça. Enfin, si ça continue, il fait 80 buts dans la saison, quoi. Je crois qu'il est à peu près parti sur ce rythme-là, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc, moi, je pense pas. Je pense que là, actuellement, effectivement, Washington et Carolina se sont un petit peu démarqués, mais que petit à petit, ils vont se faire rattraper. Et notamment, je vois bien Pittsburgh et New York continuer à les talonner et à leur mettre la pression.
Je t'avoue que quand j'ai préparé l'émission cet après-midi aussi et que j'ai relu le sujet, j'étais persuadé que t'allais dire oui, Carolina et Washington sont devant et qu'on allait tourner autour de ça et en fait d'aller sur en fait, qui des deux peut s'en sortir. Et en regardant le classement, bah, quand j'ai vu que les Rangers étaient juste derrière, c'est là où je me suis dit il y a peut-être un truc où il va m'emmener, il va essayer de m'emmener ailleurs. Et bien m'en a pris, effectivement, les Rangers, mes petits Rangers, sont plutôt bons. Dépendent, je trouve, un petit peu aussi de Shesterkin quand même. Mais c'est solide et j'aime bien les voir à cet endroit-là. Molly, est-ce que pour toi, Carolina et Washington peuvent se partager la part du Lion en division de métropolitaine?
Oh.
Oui, alors tu remarqueras, je pose beaucoup de questions qui sont très difficiles à répondre.
Ah oui, oui. C'est les deux équipes très différentes. Par exemple, Washington avait les superstars Ovechkin et aussi des défenseurs qui a beaucoup de points en ce moment. Mais Carolina, c'est pendant l'été, Caroline a pris des choix intéressants, par exemple avec le I don't know what trade is in French.
Échange.
Anderson Mrazek with the Leafs. Mm. Et pour Carolina, c'est un bon échange, mais Leafs, désolé.
Pour les Leafs. Oh. Mais ils sont habitués.
Financièrement, mais, l'opération est bonne. On peut aussi pétrer moins avec moins cher.
Mais aussi les autres joueuses comme D'Angelo. Donc, c'est trop différent que la saison dernière. Et pour moi, c'est juste trouver où dans la ligue. Parce que je ne suis pas sûre, mais Washington ne change pas. C'est toujours le même. C'est comme Oilers, c'est toujours McDavid, Draisaitl. Capitals, c'est le même, c'est Ovechkin, Wilson, Oshie. Donc, je crois que Carolina gagne cette saison, mais je ne sais pas. C'est difficile.
la question est difficile. Samuel, effectivement, Carolina, des choix intéressants. On avait un peu peur avec la perte de Hamilton, notamment en défense. Au final, ça va très bien. Et on les sent... alors, évidemment, on en parle, on dit qu'ils vont bien, etc. Hier, ils ont perdu 4-1 face à Dallas. Mais bon, ça fait partie d'une saison. C'est pas forcément révélateur de quoi que ce soit. Tu les vois au-dessus de Washington. Je sais que toi, tu nous as dit dès le début de la saison que Washington gagnerait la Stanley Cup.
Mais j'y crois toujours. Non, je pense que ces deux équipes, comme l'a dit Molly, qui sont très différentes et qui ne sont pas du tout à la même étape de leur projet. Les Capitals ont une équipe qui est rodée, qui s'est jouée ensemble, qui est composée de vétérans et qui n'a pas bougé, certes, depuis quelques années. Parce qu'il y a Carlson, parce qu'il y a Kuznetsov. Backstrom n'est pas là cette saison. Et Oshie est encore blessé. Mais c'est vrai qu'ils s'axent à peu près autour du même squelette. Après, je regardais justement, parce que c'était l'argument majeur de pourquoi Washington ne gagnerait pas la Coupe Stanley cette année. Parce qu'ils avaient un effectif trop vieillissant et qui ne changeait pas vraiment. Mais c'est pourtant l'équipe qui a le plus de premiers buts dans la NHL cette saison. Ils en ont 8 de mémoire. Donc, plus récemment, avec. Il y en a un qui a marqué hier, je ne me rappelle plus son nom. Mais on a Protas, qui joue d'ailleurs sur le premier trio. C'est un Biélorusse qui fait sa première saison en NHL. Un gros attaquant de puissance qui correspond très bien, justement, à la philosophie de jeu qui est développée à Washington. On a McMichael sur le troisième trio qui enchaîne les buts et qui est assez performant cette saison qu'on n'attendait pas du tout. Ensuite, on en a plein d'autres. Il y a Henrik Lapierre qui est aussi un attaquant et qui fait un peu la navette entre l'équipe première et la ligue américaine. Et en défense, on a Ferrari qui, je regardais justement un article de The Athletic, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, qui apparemment, selon les dires du management, etc., prend vraiment un rôle très important dans cette équipe de Washington. D'ailleurs, il est sur le premier trio à gauche de Carlson. Et donc, il y a un peu de fraîcheur dans cette équipe, aussi au poste du gardien, avec Samsonov qui a été joueur de la semaine dernière. Il y a un peu de fraîcheur dans cette équipe de vétérans. Moi, je pense que c'est un très bon mix qui peut marcher. Ovechkin marche sur l'eau, mais Kuznetsov également, puisqu'il est quatrième pointeur lui aussi à égalité avec Kadri à 27 points. Je pense que ça peut mieux marcher que les Canes de la Caroline. Ah, on a perdu. Ah non, c'est bon. Je pense que ça peut mieux marcher que les Canes de la Caroline, parce que même s'ils continuent à s'installer, ça reste des joueurs assez jeunes qui sont les têtes d'affiche de cette équipe. Le premier trio, c'est Svechnikov, qui a 3 saisons à NHL, Ao, qui en a 4 de mémoire, et Jarvis, qui à droite, qui est rookie. Donc, même s'il y a pas mal de vétérans en défense et que les apports ont été très intéressants, je ne les vois pas encore au niveau des Caps, qui m'ont l'air, peut-être que je me tromperais, hein, très probablement, les favoris pour aller remporter cette division. Et après, ça se jouera entre les Penguins, les Rangers, avec l'aide de Shesterkin, bien évidemment, et avec la Caroline.
Très bien. Très bien, très bien. Donc, tu penses que le manque d'expérience au final de ce premier trio,
ouais,
va faire qu'à un moment donné, quand les matchs vont commencer à compter, surtout si ça reste serré comme ça l'est, parce qu'ils sont, ils sont coude à coude, Carolina et Washington, tu penses que c'est là où l'expérience d'un Oshi, d'un Ovechkin fera la différence?
Ben c'est ça, même s'il y a toujours Stahl, hein, par exemple, qui est un grand leader dans cette équipe, je ne vois pas vraiment un joueur, par exemple, dans un troisième match de road trip, aller chercher la performance, aller pousser un peu plus et se mettre à fond pour aller permettre, comme on l'a vu, hein, ils n'ont pas vraiment passé une très très belle semaine, Carolina, à l'Ouest, ils ont perdu, c'était contre les Sharks hier, c'est ça.
Dallas.
Dallas.
Dallas. Et quand ils vont aller faire des road trips, etc., que ça commence à être dur dans les jambes, moi je vois même plus un Washington être décisif, même si les gars sont un peu vieux. On ne va pas dire qu'Ovechkin c'est le roi de la dépense. Donc à mon avis, ça se jouera sur ces détails-là. Mais après, c'est vrai que c'est de très bonnes équipes dans tous les cas.
Effectivement, ça reste deux favoris pour la Coupe cette année. Molly, est-ce que l'une de ces deux équipes, pour toi, pourrait gagner la Coupe cette année?
Oh, entre Carolina et Washington?
Et Washington, oui.
Carolina, s'il vous plaît. C'est mon avis.
Pourquoi Carolina plus que Washington?
Sébastien Aho.
Juste ça.
Oui. And Frederick Anderson, of course.
Mm. Oui.
Le gardien.
Qui lui aussi fait partie de ces échanges venant du Nord et qui fonctionne bien une fois parti. N'est-ce pas?
Oui.
N'est-ce pas, Jordan?
Non, c'est juste pour moi, les Capitals sont plus âgés en ce moment. Et oui, il n'y a pas l'athléticisme que les jeunes équipes. Par la exemple, équipe hier, le jeu hier avec Panthers, la troisième période, où est Washington? Juste arrête. C'est juste pourquoi? C'est 4 bouts et Washington,
ouais. Zéro. Ouais, on rappelle les Panthers se sont imposés hier en mettant 4 buts en 3e période. Effectivement, oui. Les Washington a complètement disparu dans le troisième tiers temps. Bon, il y en a. Il y a une autre équipe qui affiche ses ambitions depuis le mois de novembre, mais on le sait, ça durera pas très longtemps. Enfin, qui sait, Jordan. Est-ce que après le mois de novembre que viennent de nous faire les Maple Leafs, est-ce que ils vont être capables, Satan et tout, de continuer sur leur lancée et d'aller au bout cette année, et pas de redécevoir à nouveau leurs fans au premier tour des playoffs.
Alors, c'est pour moi deux questions vraiment différentes. Je vais répondre à la question sur la saison régulière et la question sur les playoffs juste après. Donc, pour la saison régulière, est-ce qu'ils peuvent continuer Je vois le chat en même temps.
Ouais. Flav est catégorique, c'est non.
Ouais, et donc la réponse est oui. Enfin, en tout cas, moi, à mon sens, oui. Parce que il y a, en tout cas, une des choses que j'ai notées qui diverge énormément entre le début de saison des Leafs et maintenant, c'est leur capacité à bouger le palais efficacement en zone défensive. Les premiers matchs, c'était très laborieux. Dès que l'équipe adverse arrivait à mettre la pression sur le filet de Campbell ou Mrazek, les défenseurs ont buté. Et c'était très, très laborieux pour déplacer le palais, pour se reprojeter vers l'avant, etc. Et défensivement, l'équipe a en tout cas énormément amélioré son jeu, amélioré son efficacité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, je ne sais pas si ça se vérifie, je dirais, statistiquement parlant aussi. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et surtout, j'avais une inquiétude qui était que les Leafs soient finalement trop dépendants de leurs deux premiers trios que dès que tu enlèves Nylander, enfin, Matthews, Marner, Nylander, Tavares, il n'y a plus personne. Je suis agréablement surpris de certains joueurs, je pense à Bunting, qui montre de très belles choses. Dans une moindre mesure, Kerfoot, même si on attend toujours beaucoup d'Alexander Kerfoot, vu qu'on a perdu Nazem Kadri. Non, si c'était ça, c'était contre Kadri, Kerfoot, je ne sais plus. Je crois bien.
Vu la tête que fait Molly, je pense que c'est ça.
Ouais, c'était.
C'est l'échange.
L'échange entre eux.
Ouais. L'échange, c'est pas Kerfoot, c'est Barry.
Ah oui, pardon, c'est pire, autant pour moi.
Mais Barry, c'est.
Voilà, oui, il est parti. Oui, voilà. Non, alors oui, je savais bien que l'échange de Kadri, c'était catastrophique, mais oui, non, c'était Barry.
Ouais, maintenant.
voilà, mais en tout cas, bref, enfin, Kerfoot, c'était aussi un des joueurs qui a souvent été critiqué. Je trouve qu'il fait un peu mieux que les saisons d'avant. Et ça, à mon sens, pour moi, c'est les signes d'une équipe qui va bien, en fait. Alors, sans vouloir faire de... Parce que là, c'est peut-être une comparaison osée, connaissant le passif des Maple Leafs en playoff. mais, en règle générale, les équipes qui ont des joueurs comme ça, on va dire qui ne sont pas des top players, mais qui arrivent à avoir des joueurs comme ça qui performent, vont loin. Donc cette année, et je croise les doigts de tout cœur, et c'est peut-être aussi un peu un appel à la miséricorde, je ne sais pas, mais God please qualifiez-vous.
Il n'y a pas trop de raisons aujourd'hui pour que... Après un mois et demi, pour ne pas voir Toronto en play-off quand même la saison qui vient. Ils sont au coude à coude avec les Panthers, certes, mais compte tenu de la défense et des gardiens au final, parce que c'est la deuxième défense, et pourtant Toronto est la 11e équipe qui concède le plus de tirs par match. Donc ça veut dire que bravo Campbell. Samuel, est-ce que en ayant juste la 17e attaque et une excellente défense, est-ce que ça va suffire pour aller en play-off en fin de saison?
Oh, pour aller en play-off, oui. Franchement, je ne me fais pas de soucis pour les Leafs pour y aller. Après, bon, les performances en play-off, on verra plus tard. Mais c'est vrai qu'ils ont un axe assez intéressant entre Campbell, qui est énorme, déjà parlé. Et surtout, il y a un joueur qui me satisfait, entre guillemets, et je vais peut-être profaner en disant ça, mais je pense que Tavares a enfin trouvé sa place, entre guillemets, de vrai leader offensif de cette équipe. C'est le meilleur pointeur actuellement de Toronto. Et puis, donc sur son trio avec Kerfoot et avec Nylander, maintenant, puisque ça a changé.
Ouais, ils ont changé. Ils ont re-switch.
Ça. C'est assez intéressant de le voir évoluer parce que les autres restent à peu près dans leur standard en fait, et c'est surtout ce joueur-là qui ressort. Campbell qui fait des très bonnes perfs, et puis au niveau de la défense aussi, Morgan Rielly assure plus ou moins en power play et même dans sa zone. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire, qu'ils iront en play-off et même largement, entre guillemets. Après, pour les play-off, j'ai un peu plus de doutes. Je ne pense pas que ce soit vraiment une équipe de play-off encore, même s'ils ont pris Nick Ritchie, que j'adore. D'ailleurs, qu'il ne joue pas.
C'est compliqué. Mais il a fait un petit...
Il est passé du premier au quatrième trio, enfin bref.
C'est compliqué du coup.
Mais il a fait un petit croche-patte à Brad Marchand, alors il a gagné le cœur des fans.
C'est bon.
Ah, les croche-pattes, moi, j'en parlerai plus tard. Les playoffs, c'est sûr. Après, on verra pour le premier tour.
Molly, est-ce que, comme dans cette vidéo qui est devenue virale à propos des fans de Toronto, est-ce qu'ils sont ready to be hurt again?
Toujours.
Et hop, headshot. Celle-là, tu la brises, tu l'as bien prise, celle-là, Jordan. Et hop, voilà.
Juste toujours. C'est juste la même chose chaque année, donc toujours. Mais je peux discuter avec Chanel à propos de The Leafs, toujours avec elle. C'est difficile avec The Leafs parce que c'est pas... C'est OK si je explique en anglais?
Vas-y.
Oui. With The Leafs, they will make it to playoffs. But it's whether they get through round one to round two, and then round two to round three, and then if they get to final. It's not if they win or not, it's how they're progressing with the Leafs. You can't just say, oh, they lost a game, and then everyone cries. Because that's what Leafs fans do.
Alors, en gros, c'est pas de savoir si les Leafs vont aller en playoff, mais c'est plutôt de savoir comment ils vont faire pour passer du tour 1 au tour 2 et du tour 2 au tour 3. Parce qu'on n'est pas dans une réflexion avec les Leafs, malheureusement, depuis quelques années, sur est-ce qu'ils sont capables d'aller au bout, mais c'est est-ce qu'ils sont capables de passer chacun des tours. Et Molly termine, bien entendu, en disant que les fans des Leafs ne font que pleurer. Bon, j'ai pas encore vu Jordan pleurer, moi, j'ai la chance. Mais moi, peut-être que secrètement, il pleure chaque année.
Alors,
est-ce que tu veux rebondir sur cette attaque, parce que c'en est une
Non, c'est assez factuel. Je pense que c'est à la fois la force des Leafs et aussi peut-être leur plus grand problème, c'est que ils sont dans un gros marché. Où tout tourne autour du hockey. Quand Austin Matthews se rase la moustache, que le fait que TSN en fasse 10 000 articles, je pense que ça montre l'impact médiatique. Mais alors attention, parce que pour le coup, les Habs, c'est exactement pareil. Voilà, l'impact médiatique qu'ont ces franchises sur les marchés dans lesquels ils opèrent. Et c'est, en fait, il y aura toujours quelque chose à redire sur les Leafs. Il y aura toujours quelque chose, enfin, que ce soit en bien, que ce soit en mal, à critiquer, parce que bah, ça génère de l'interaction, ça génère du clic, et c'est ce qui est recherché. D'ailleurs, justement, Matthews en a parlé avec, j'ai plus le nom du journaliste, à la sortie du match face aux Ducks, où il disait que il se moquait en gros de leur avis et qu'il essayait juste de jouer le meilleur hockey possible. Je pense que, à mon sens, pour les Leafs et pour pour ce groupe de joueurs, s'ils arrivent à passer le tour 1, ça va donner à la fois à Sheldon Keefe et à la fois aux joueurs peut-être le déclic pour se dire qu'ils peuvent le faire, parce que en tout cas je vais reprendre la série face à Montréal l'année dernière, quand Toronto perd le sixième match et que du coup il doit jouer ce Game 7, je sais pas toi Charles si tu t'en souviens. Je t'avais dit que je
me souviens très bien de ce que tu m'as dit, oui.
Je t'avais dit que les Leafs allaient perdre. Et en fait, en réalité, la série, ils la perdent justement sur ce sixième match qu'ils doivent gagner et où le mental flanche. Et pour moi, la ressource des Leafs, enfin, en tout cas, le travail, il est psychologique. Et je pense que si jamais ils arrivent à faire une bonne saison régulière, qu'ils tombent face à une équipe qui, si possible, n'est pas Boston, ça m'arrangerait. voilà, qu'ils arrivent en effet à passer ce premier tour. Après, ça débloquera un certain nombre de choses, parce que le contrat tacite entre les médias, les fans et la franchise, qui est de se qualifier pour le premier tour des playoffs, sera rempli.
Je sais pas, Samuel, si tu es d'accord avec ça, mais effectivement, je pense que la composante mentale côté Toronto, quand ça fait 2013 qu'ils n'ont pas passé un premier tour, c'est ça hein
2000...
Quelque chose comme ouais. ça
Non, 2004.
2004
2003. C'est avant... Enfin, les Thrashers ont gagné un premier tour de playoff plus récemment que...
Mais bah c'est bon. Hein. Oh.
C'est ça. Non, pour illustrer, c'est important.
Bon.
Non, mais c'est sûr que c'est un blocage mental, très probablement... une espèce de pseudo-malédiction qui pèse, et le fait que les médias, comme l'a dit Jordan, relayent tous les faits et gestes des Leafs n'aide pas par rapport à la pression que peuvent avoir les joueurs de Montréal, qui d'ailleurs, deux d'entre eux ont eu de très gros problèmes mentaux très récemment. C'est difficile, évidemment, pour des athlètes de tout sport, hein, de subir une pression constante des médias. C'est ancré dans la franchise. Je vais faire un petit parallèle football. Je sais que Jordan saura apprécier. C'est comme quand l'OM se déplace à Bordeaux.
Oui.
Ils peuvent gagner contre Bordeaux, et les Leafs ont le talent pour gagner le premier tour. Mais mentalement, il y a quelque chose qui dit, et si on était vraiment maudits, parce que ça fait 3 semaines que TSN en parle pendant 5 heures en émission.
Nous aussi, on en parlera.
Nous aussi, bien sûr qu'on en parlera. D'ailleurs, Matthews nous regarde, il m'a dit.
Oui, oui. Ouais.
C'est évidemment mental, et donc il faut qu'il brise la malédiction, enfin. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Mais,
moi, s'ils sortent Boston et que Marchand se blesse.
Bah, pour l'instant, je regardais justement, c'est les Pittsburgh. Enfin, pour l'instant, ça fait 20 matchs. Hein.
Ce serait les,
ils tomberaient contre les Penguins. C'est pas simple comme confrontation.
Non, c'est pas
simple. Donc,
après, je pense que rien ne sera, à mon avis, avec le retour à la playoff normale.
Les playoffs.
ce sera compliqué sans doute. À tous les niveaux. Jordan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour défendre les Leafs, parce que...
Alors, non, en revanche, le fait de comparer les Leafs à l'OM me blesse intrinsèquement beaucoup plus que ce qu'a dit que ce qu'a dit Molly, parce que bah, finalement, ça, pour le coup, c'est quand même vraiment un coup bas. Et ouais, effectivement, c'est vrai que Alex a raison, c'est un peu notre bête noire, et, entre parenthèses, jaune, les pingouins.
Ouais, ouais, mais ils ont changé de proprio.
Ouais. Ah. Mais voilà, non, bah, je pense que oui, c'est ça, enfin, tout a été dit. Moi, je trouve que l'équipe, moi, je trouve que l'équipe, en tout cas, a énormément progressé. Et j'aimerais beaucoup que, enfin, outre le fait que je sois supporter, hein, ça, effectivement, j'aimerais beaucoup parce que ça serait la première fois que je verrais une de mes équipes gagner un titre majeur.
Pas jusque là.
Hmm,
ne rêve pas jusque là.
Mais bah, non, ce serait la première. Enfin, je m'avance pas s'il gagnait.
Oui.
Oui, bien sûr.
Voilà. Je veux dire s'il gagnait, mais. pardon, j'ai un peu perdu le fil, mais au-delà de ça, même pour un joueur comme Spezza, ce serait super cool, tu vois, qu'il ait enfin.
Même pour Matthews, c'est enfin.
Ouais, mais Matthews, il a le temps.
Il gagnera avec Arizona.
Quand il sera tradé pour rien du tout.
Ouais, donc 13 tours de tour de draft.
Pour terminer, on a beaucoup parlé de NHL, etc. On a parlé de nous, tout ça. Molly, c'est le petit instant un petit peu promo. Est-ce que tu peux nous parler de votre podcast, de ce que vous faites, sur où est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce que c'est uniquement en anglais? Mais je pense que oui. Dis-nous en plus sur votre podcast.
Ok. Mon podcast c'est At This Hockey Pod. C'est un podcast sur hockey. En ce moment, c'est juste moi et mon amie Chanel, elle est canadienne, et nous juste parlons comme les actualités et notre équipe. Donc c'est juste Habs et Leafs en ce moment. nous avons une autre personne aussi qui est Sharks fan, mais en ce moment c'est juste les filles.
Juste les filles. Podcast entre filles, mais c'est très bien. C'est vraiment très bien.
C'est toujours troll. Nous avons beaucoup de blagues.
Où est-ce qu'on peut écouter le podcast?
C'est sur Spotify, YouTube, toutes les plateformes. C'est chaque 15 jours en ce moment parce que le travail, c'est difficile. et s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, on peut enregistrer les podcasts en français aussi. Ou essayer, tout bilingue.
Mais il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de fans de hockey en France qui n'attendent que ça, d'avoir du contenu sur la NHL, que ce soit en français, effectivement, c'est mieux. Mais si c'est en anglais, si c'est fait en France, c'est tout aussi bien. Ça fait combien de temps que vous avez lancé This Hockey Pod?
Oh, ages. Je ne suis pas sûre. C'est beaucoup, beaucoup. non, c'est juste... C'est commence parce que je travaille avec Chanel au Canada. Regarde tous les matchs des Senators. Et maintenant, je parle toutes des équipes sauf des Senators. Mais désolé. C'est un petit...
On a un invité de plus.
Oui. Alors, oui, I forgot what I was saying. But yeah. Okay.
Non, que tu... C'était depuis combien de temps vous faisiez ça? Donc, vous faisiez ça déjà avec Chanel depuis le Canada. Et que vous ne parliez plus des Senators. Bon.
Pas très grave. Il n'y a pas des mots pour décrire les Senators. oui,
jusqu'à présent, il y en avait un, c'était Covid, mais...
Malheureusement.
Oui. Ouais. Il y a nul aussi, ça marche bien. Hein.
Oui, oh, je voulais pas en arriver là. Je voulais pas.
Moi, je m'en fous.
Je voulais pas en arriver. Eh ben, foncez écouter. Du coup, s'il y a plein de blagues en plus, si vous êtes bon en anglais, n'hésitez pas. Si
non,
en plus,
mais
blagues c'est, sur le hockey,
c'est très accessible. Hein.
Ouais, allez-y.
Je l'ai déjà écouté plein de fois.
Suivez-les sur les réseaux sociaux, ils sont sur Twitter aussi.
J'ai mis le lien pour YouTube.
Il y a des liens qui sont mis sur le chat. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne YouTube et à écouter leur podcast sur toutes les plateformes.
Merci.
Avant qu'on se quitte, c'est quand même la moindre des choses. Avant qu'on se quitte, deux choses. La première. Il y a le dernier numéro de Slapshot qui est sorti. Faut qu'on le voit bien. Voilà. Magazine, je pense que vous le connaissez. Super magazine sur le hockey qui est fait en France par des passionnés. Ça parle du Kraken, ça parle de plein de choses. Il y a un super poster à l'intérieur qui fera plaisir à Samuel.
D'accord. Non, j'ai rien contre McDavid, c'est juste le maillot.
De ce
porte.
Cher McDavid. Il y a des super interviews en plus à la fin sur Romain Delbello qu'on a reçu ici avec quelques difficultés, mais qu'on a reçu dans l'émission. Il y a aussi Charles Trognon qui est commentateur sur Canal Plus Sport. Donc allez-y, foncez l'acheter, foncez vous abonner aussi. Il sort tous les deux ou trois mois, si je ne me trompe pas. Celui-ci, c'est pour la période de octobre à décembre. Gros focus en plus sur le Kraken. Donc, allez-y, il est super bien. Et parce que je ne vous ai pas oublié, la question, quel est le premier joueur à avoir inscrit un but dans le même match à la fois à 5 contre 5 en power play, en infériorité numérique, en penalty shot et en filet désert. Alors, on a eu une réponse dans le chat, mais je vais laisser la parole à notre invité ce soir. Merci. Molly, est-ce que tu as une idée de qui est ce joueur ? Tu peux, t'inquiète pas, il n'y a pas de... Enfin, j'allais dire, il n'y a pas de mauvaise réponse.
Peut-être,
si, il y en a
non.
Plein, mais...
Aucun idée. Excuse me, cat. I don't have an idea.
Ok, pas de souci, Jordan.
Sorry.
Non, ça va, t'inquiète pas.
Alors, en vrai, j'en sais rien. Je vais procéder par élimination parce qu'il faut prendre quelqu'un qui jouerait à la fois sur les unités spéciales en avantage numérique et en désavantage numérique. Mais en fait, je commence à me dire que ça a dû arriver avant même que je sois né. Enfin, potentiellement. Donc, ça doit être un vieux joueur. Il faut aussi prendre quelqu'un qui a potentiellement marqué beaucoup de buts. Alors, je ne sais pas. J'aurais dit peut-être Gretzky ou Gordie Howe. Mais... Allez, je vais dire Gretzky. Mais non, ce n'est pas ça.
Non, ce n'est pas Gretzky. Ouais. Non, il n'a pas... tous les records,
Gretzky. Bah, il y en a mais beaucoup, donc statistiquement, ça pouvait marcher.
Mon petit doigt me dit que Samuel, il a la réponse.
J'ai la réponse depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Non, c'est Mario Lemieux.
Oui, c'est Mario Lemieux. Bravo Alex dans le chat.
C'était contre Philly ou Montréal?
Non, c'était contre les Devils en 88.
Depuis tout à l'heure, je suis sur 100.
Le jour de l'an. Il a réalisé 7 exploits. Bravo. Bravo, bravo. Bon, oh, j'ai été soft, ça va.
Oui.
Ça va. Mario Lemieux, quand même. Bon.
Ouais, je savais pas que c'était lui. Tu vois,
genre...
Et ouais. Et oui, c'était lui. Eh bien, on arrive à la fin de notre émission. Merci infiniment. Molly d'être venue ce soir. Merci d'avoir accepté de venir parler hockey avec nous. Merci les gars.
Bah, de rien.
Merci à toi, ouais. Charles.
Merci à toi.
Molly, vous revenez. This Hockey Pod peut revenir quand ils veulent. Il n'y a pas de souci. On sera avec plaisir d'accueillir aussi Chanel. Jordan se sentira moins seul pour parler des Leafs. Donc, vous pouvez revenir, bien entendu, quand vous voulez. Merci à vous tous sur le chat d'avoir un petit peu animé la soirée ce soir. Et merci à vous tous de nous suivre. Vous pouvez revoir cette émission juste après sur Twitch et sur YouTube. C'est dispo aussi sur Twitter. Et d'ici quelques minutes, en format podcast, si vous voulez juste le son et pas voir nos tronches, vous pouvez le voir aussi en podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, etc., etc., etc. Et on le rappelle, vous allez vous abonner, vous allez écouter de ce pas le podcast de Molly Chanel sur la NHL aussi. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de hockey et on se retrouve demain, 20h45, pour parler de NFL dans Tailgate. Et parler des Saints, Jordan sera content d'entendre parler des Saints.
Ils jouent contre qui déjà?
Les Cowboys.
Ah bah je souhaite tellement pour les Cowboys.
Je crois que je les ai mis dans les pronos avec l'équipe. Donc effectivement, how about them Cowboys? Merci à tous. Allez, sur ce, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Crosscheck.